Auteur immobilier qui nous avait fait part de l'avantage, de l'intérêt d'habiter à Pergame. À Philadelphie, c'est un tout petit peu moins le cas, c'est un tout petit peu moins avantageux d'habiter à Philadelphie, mais ça, je vous expliquerai ça tout à l'heure. En attendant, je vous invite à suivre avec moi dans votre Bible, ou bien en vidéoprojection, la lecture de l'Apocalypse, et nous lirons au chapitre 3, les versets 7 à 13. Chapitre 3 de l'Apocalypse. À l'ange de Philadelphie, écrit. Voici ce que dit le Saint, le vrai, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre de telle sorte que personne ne ferme, celui qui ferme de telle sorte que personne n'ouvre. Je connais tes œuvres. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Je te donne ou je te donnerai des gens de la synagogue du Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, ils mentent. Je ferai en sorte qu'ils viennent se prosterner à tes pieds et qu'ils sachent que moi je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, je te garderai moi-même de l'heure de l'épreuve qui va venir sur toute la terre habitée, pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Reste attaché à ce que tu as, pour que personne ne prenne ta couronne. Le vainqueur, j'en ferai une colonne dans le sanctuaire de mon Dieu, et il n'en sortira jamais plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la Jérusalem nouvelle qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Habiter à Philadelphie est un choix risqué. Alors d'abord parce que c'est une ville qui est relativement récente par rapport aux autres villes que nous avons visitées. C'est une ville qui est moins prospère, certes fertile, dans la région, au niveau agricole, mais elle a un gros inconvénient, c'est qu'elle se trouve dans une région volcanique et du coup est soumise à un certain nombre de tremblements de terre assez réguliers. À tel point qu'entre 17 et 20 de notre ère, il y aura eu une série de séismes assez réguliers qui a détruit une partie de la ville de Sardes et démoli la ville de Philadelphie. Aussi, même une fois qu'ils ont reconstruit la ville de Philadelphie, les habitants étaient toujours un peu en alerte. Vous savez, un peu comme au Japon, où on fait un certain nombre d'exercices, dès qu'il y a des séismes, on s'abrite sous les tables, etc., etc. Et donc, les habitants de Philadelphie étaient assez habitués à cette époque à fuir dès la première secousse de séisme. Et donc, en Philadelphie, en l'an 20, la ville est totalement détruite. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, lorsqu'il y a des cataclysmes, même en France, on demande à l'État d'intervenir, on demande aux assurances d'intervenir, mais on sait que l'État est souvent plus réactif. Et à cette époque, c'est ce qui s'est passé. On a demandé au pouvoir public de l'époque, Tibère, empereur de l'Empire romain, de contribuer, d'aider à la reconstruction. Alors vous allez me dire, c'est sympa pour l'Empire romain d'aider à reconstruire une ville. Mais ce que l'on sait aussi, c'est que cette aide publique n'était pas sans condition. Et ça a mis en place, a généré le culte impérial dans la ville de Philadelphie. On a eu d'abord le culte pour Germanicus, le fils de Tibère, et puis après on a enchaîné avec Vespasien, etc., etc. À tel point que la ville même a changé de nom à chaque empereur, Néo-Césarée, Vespa pour Vespasien, etc., etc. Bref, l'église de Philadelphie naît dans ce contexte. Une ville sujette au tremblement de terre, une ville où on y pratique le culte impérial assez régulier, mais une église dont on sait peu de choses finalement, si ce n'est qu'elle reçoit que peu de reproches, même pas du tout, dans l'église, dans la lettre à Philadelphie. La seule chose que l'on sait, c'est par la bouche ou la parole d'Ignace d'Antioche, c'est que l'on retrouvera 11 chrétiens de Philadelphie lorsque, à Smyrne, il y aura un certain nombre de massacres. Ils ont été témoins. fidèle jusqu'à la mort, c'est philadelphien. Mais ça, je vous laisse tout à l'heure, on en parlera encore. Donc l'église de Philadelphie évolue dans une zone sismique, une zone d'instabilité à tous égards. Alors il est vrai que nous ne sommes pas soumis directement à des tremblements de terre physiques, à des séismes, mais nous voyons, nous vivons, nous entendons des séismes dans nos vies, séismes imagés, nous entendons des séismes dans la vie de nos contemporains, des membres de notre famille. Nous avons connu des secousses, et nous connaissons des secousses actuellement, dans notre pays, dans notre communauté, avec la maladie, les épreuves en tout genre. Et alors, quand ça secoue, quand les tremblements de terre sont là, où puiser la force de continuer ? Où puiser la force de marcher ? Il y a parfois tant de choses qui nous tombent dessus qu'on a l'impression comme si on suffoquait. On n'arrivera pas à s'en sortir. Et il me semble que la lettre de Philadelphie, comme les autres lettres, nous aide à prendre un peu de la hauteur et à conjuguer notre foi au passé, au présent et au futur, et à mettre au fond notre perspective, mettre notre vie chrétienne en perspective. Et c'est ce que fait le Seigneur. Il invite l'Église de Philadelphie à conjuguer sa foi au passé, au présent et au futur. D'abord, au passé et au présent, en rappelant son espérance, l'espérance qui prend l'image d'une porte. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. La porte ouverte. Résumé bien imagé de la réalité de l'évangile qui a été prêché à Philadelphie. Évangile qui annonce, qui proclame la proximité de Dieu, la possibilité d'entrer dans son temple, dans sa présence, car la porte est ouverte. La porte est ouverte. Et celui qui l'a ouvert, c'est le Christ, Jésus, celui qui s'est présenté comme la porte dans l'évangile de Jean. Voilà donc l'objet de l'espérance, la porte qui donne accès à Dieu de tout temps, à tout moment, est maintenant ouverte. Qu'est-ce qu'a fait Jésus à la croix ? Qu'a-t-il fait ? Si ce n'est prendre cette clé et ouvrir la serrure de la porte qui empêchait l'homme de s'approcher de Dieu. Lui a pris la clé et a ouvert les portes du royaume de Dieu. Alors les chrétiens de Philadelphie, en plaçant leur foi dans le Christ, ont reçu comme un laissez-passer, un fast-pass. Lorsqu'on va à Disneyland, vous pouvez aller plus vite au manège, là, vous savez. Ils ont reçu un laissez-passer, un accès possible à Dieu et à sa présence. Ils ont reçu la citoyenneté de cette vie nouvelle, de cette ville qui est promise, cette ville qui sera stable, cette ville qui ne sera plus soumise au séisme, mais cette ville est encore à venir. Ils le savent, les Philadelphiens. Ils sont citoyens, c'est vrai, de cette ville un peu instable de Philadelphie, mais ils sont aussi citoyens d'une nouvelle ville qui vient. Et pendant ce temps, que font nos Philadelphiens ? Oh, ils ne vivent pas dans le monde rose et enchanté des contes de fées. Ils ne vivent pas dans un espèce de mode extatique, loin de la réalité du monde, exultant à tous égards, essayant partout de vivre une réalité qui n'est pas encore là. Non, les Philadelphiens vivent les frustrations, les violences, les oppressions qui sont encore dans notre monde. Ils connaissent, c'est vrai, la marginalisation sociale, économique, religieuse. Mais ils ne sont pas là dans un espèce d'état ascétique ou extatique, en méditation perpétuelle à attendre que la nouvelle Jérusalem arrive. Ils vivent dans cette réalité du monde, nourris de leur espérance. Et Jésus, au fond, présente à ses Philadelphiens le sens de l'histoire. Il y a un passé. La porte qui a été ouverte, porte qui reste ouverte et qui restera encore ouverte jusqu'au temps de la fin. Il y a ce passé de l'accès rendu impossible à Dieu, un passé qui nourrit ce présent fait d'épreuves et de difficultés, mais un passé et un présent qui se nourrissent ensemble d'espérance pour attendre un futur, un jour où ils seront pleinement en présence de Dieu, un jour où ils passeront le seuil de la porte, un jour où ils pourront contempler celui qui les a tant aimés. Mais pourquoi donc cette porte ne peut pas se fermer ? Si une porte est ouverte, en principe, c'est qu'on peut la fermer. Et si quelqu'un a fermé une porte, on peut, en principe, l'ouvrir. Mais là, Jésus nous présente un aspect assez étrange de cette porte. Elle ne peut pas se fermer. Ou plutôt, plus précisément, nul ne peut la fermer. Mais pourquoi une telle affirmation ? Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, parce que celui qui peut la fermer est celui qui tient les clés. Logique, me direz-vous. Et celui qui tient les clés du royaume, c'est le Christ. Les clés du royaume de David, les clés de cette ville royaume qui vient, c'est lui qui les tient. Oh, il ne se présente pas comme un homme comme les autres. Avez-vous remarqué au verset 7, il se présente comme le vrai, le saint. Ce sont des titres qui reviennent à Dieu dans l'Ancien Testament. Donc ce que le Christ rappelle aux Philadelphiens, c'est qu'il est Dieu. C'est lui qui a ouvert la porte. Alors qui a assez de force pour fermer la porte ouverte par le Seigneur ? Qui est-ce qui a assez de légitimité pour le faire, de dignité ? Personne, si ce n'est le Christ, car il est celui qui tient les clés du séjour des morts. Alors ce qu'il annonce, c'est un royaume de vie. Et celui qui tient la porte qui donne accès à ce royaume, c'est la main du crucifié, l'agneau immolé. Alors qui peut fermer une telle porte ? Cette espérance, cette porte ouverte par l'agneau, cette porte ouverte et qui reste ouverte parce que celui qui tient la poignée est celui qui les aime tant, et cette espérance chrétienne qui nourrit les Philadelphiens. Elle est cette sève qui nourrit la fermeté de leur foi, cette sève dont découlent les bons fruits de leur espérance. Car les chrétiens de Philadelphie vivent cette dure réalité de l'oppression, de la peur aussi, de la crainte pour sa vie, pour ses biens. Ces chrétiens de Philadelphie ont tenu bon. Ils sont restés fidèles malgré leur peu de puissance. C'est ce que dit Jésus. Oh, ils sont peut-être tout petits en nombre. Ils sont peut-être des petites gens, comme on dit. Ils sont peut-être d'un standing social assez bas, peu instruits. Peu importe. Au fond, l'idée n'est pas tant la qualité de la bassesse, mais la réalité, leur réalité face au monde qui est devant eux, face à cet empire romain, face à ce monde politico-économico-religieux qui essaye d'endoctriner, d'emmener le monde à sa perte. Malgré tout cela, malgré leur petitesse, ils sont restés fidèles. Fidèles malgré les secousses, fidèles malgré le séisme qu'ils ont pu rencontrer. Ce petit peuple fidèle reste ferme dans sa foi. Il reste ferme dans un monde qui est empêtré de mélanges entre politique, économique, idolâtrie. Ils restent fermes. Ils sont restés fermes, comme ce petit peuple d'Israël en Égypte. Et aujourd'hui, chers amis, qu'est-ce que le nombre de chrétiens dans le monde ? Qu'est-ce que le nombre de chrétiens en France ? Et dans la région de Melun ? Qu'est-ce que 21 chrétiens coptes décapités pour leur foi ? C'est rien à l'échelle de l'humanité tout entière. Mais chacune de ces personnes sont les enfants du Dieu créateur. Chacune et chacun de ces chrétiens sont objets de l'amour du Dieu fidèle. Chacun est témoin du Seigneur, là où il l'a placé. Et je voudrais simplement vous lire quelques textes, quelques témoignages issus du fil rouge de Porte Ouverte, suite, vous savez, au massacre de ces 21 coptes égyptiens en Libye. Voici donc ce que dit Béchir, qui a perdu dans le drame ses deux frères. Je ne réalise pas que je ne le reverrai plus. C'est parce qu'ils étaient chrétiens qu'ils ont été tués. Un prêtre d'une ville originaire d'autres victimes dit ceci. Tous les habitants sont plongés dans une profonde tristesse. Les pleurs et les gémissements remplissent la maison. Notre seule consolation, c'est que nos martyrs sont maintenant dans les cieux avec Jésus. Un autre témoignage de Chenouda, qui a perdu son frère et son cousin dans ce drame, dit ceci. Mon frère Luc ne verra jamais sa fille, née pendant qu'il se trouvait en Libye. En apprenant la nouvelle, ma mère s'est évanouie. Le cap de l'émotion est difficile à passer. Mais il y a une chose que je sais. Je sais que Luc et mon cousin et Sam ont invoqué le nom de Jésus avant d'être exécutés. Ils n'ont pas renié le nom de leur Seigneur et Sauveur face à la mort. Ils ont gardé la foi jusqu'à l'ultime moment. Nous sommes fiers d'eux. À la suite de ces drames, France Info a lancé, vous savez peut-être, un petit jeu de culture générale. Et dans ce jeu, ça consiste soit à trouver l'origine d'un mot ou l'origine d'une expression. Et le mot qui était ici à trouver était le mot martyr. Martyr, dont le mot est à l'origine grec et qui signifie témoin. Témoin du Christ, témoin face à l'oppression, témoin devenu martyr. Et c'est vrai, il y a quand même un coût à être témoin du Christ, dans certaines régions beaucoup plus que d'autres. Et pas d'abord parce que nous sommes taxés de conservateurs sur des questions éthiques, mais parce que nous sommes du mauvais côté de la force pour certains, mais du bon côté de la force pour le Seigneur. Nous sommes dans une réalité où les ténèbres luttent éperdument contre les enfants de lumière, essayant de faire taire l'amour de Dieu pour le monde. Être témoin du Christ, voilà ce que sont les Philadelphiens. Conscients profondément du temps de l'histoire et de là où ils se placent, de leur espérance présente et future. Les chrétiens de Philadelphie ont été témoins, ont été martyrs, nullement en semant la mort au nom de Dieu, mais au contraire, en proclamant le royaume de vie et d'amour. Voilà, conjuguer au passé et au présent la réalité des chrétiens de Philadelphie. Mais le Seigneur Jésus poursuit et conjugue maintenant au présent et au futur la foi de ces chrétiens de Philadelphie. D'abord, en promettant et en invitant les chrétiens de Philadelphie à poursuivre leur témoignage, même face aux oppresseurs du moment. La porte reste ouverte, même pour ceux qui persécutent, dit Jésus, même pour ces membres de la synagogue de Satan, pour ces personnes juives qui ont compromis leur foi avec les réalités de ce monde de l'Empire romain. Ils sont qualifiés de menteurs, car ils ne croient pas en Jésus, le vrai Messie. Ils sont qualifiés de menteurs parce qu'ils tuent ceux qui ne sont pas comme eux. Et les premiers opposants au christianisme furent dans l'histoire les cousins juifs de ces chrétiens, ceux qui refusaient de reconnaître le Christ. Puis ensuite, il y a eu l'Empire romain. Oh, l'idée ici n'est pas de condamner le peuple juif. Le Seigneur invite plutôt l'Église de Philadelphie à se préparer à accueillir ces personnes d'origine juive et par là même à inverser les prophéties de l'Ancien Testament. Là où l'Ancien Testament annonçait que les nations d'origine païenne allaient s'approcher de Dieu à travers Israël, ici c'est l'inverse. C'est l'Église de Philadelphie, à majorité païenne, qui va permettre de proclamer l'amour de Dieu pour ces personnes d'origine juive. Le Seigneur veut le salut de quiconque. Et il invite ces chrétiens de Philadelphie à persévérer, à poursuivre le témoignage même vis-à-vis de ces personnes, membres de la synagogue de Satan. Et puis, il donne quelques promesses concernant l'avenir, concernant le futur, des promesses de protection, de sécurité. D'abord, des protections quant à l'heure de l'épreuve à venir. Drôle d'expression. Mais de quelle épreuve s'agit-il ? Oh, les chrétiens de Philadelphie sont soumis aussi aux aléas de la vie. Ils ne sont pas épargnés par les persécutions. Mais ce que le Christ leur rappelle, c'est que même dans la tempête, même dans la persécution, ils ne sont pas abandonnés. Ils sont gardés dans la main du Père. Et nous l'avons chanté tout à l'heure, cet extrait de Romains 8, « Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu ». Et ce qui adviendra, ce qui sera encore décrit dans la suite du livre de l'Apocalypse, ces fléaux, seront autant de jugements dont le petit peuple chrétien sera épargné. Oh, ils vivront ces souffrances, mais ils seront gardés par la paix du Christ. Ils tiendront jusqu'au bout, jusqu'à ce que Jésus revienne installer son royaume. Ils seront gardés. Ils seront en paix dans toute cette épreuve à venir. Jésus va encore plus loin et promet une communion éternelle et solide avec Dieu dans la ville, temple, qui va descendre du ciel. Lorsque le Seigneur reviendra, chaque chrétien de l'église de Philadelphie sera une colonne, image de stabilité, de sécurité dans une ville où les choses ont tendance à secouer. Mais il ne s'agit pas d'un temple physique. Il s'agit d'un temple fait d'hommes et de femmes, de croyants qui seront dans la présence de Dieu de façon éternelle et pleine, sans intermédiaire. Voilà ce qui advient, voilà ce qui arrive et ce qui est promis par Jésus. Et cette promesse est aussi promesse de ce nom que nous avons déjà rencontré, nom de Dieu, nom de la ville de Dieu, autant de signes d'appartenance et de protection du Seigneur sur son Église. Alors, y a-t-il une date précise à tout cela, à ce passé, présent et ce futur à venir, à cette heure de l'épreuve à venir ? Chers amis, je ne vais pas vous annoncer la fin du monde ce matin, parce que Jésus ne la dit pas non plus. Il dit simplement « Je viens bientôt ». Alors parfois, ce « bientôt » peut nous sembler un peu long. Vous savez, Benjamin, quand je lui dis « Tu viens à table », par exemple, il dit « J'arrive tout de suite ». Et ce « tout de suite » peut durer 5 minutes. Et d'ailleurs, l'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître au chapitre 3, parle de ce « bientôt ». Je vous invite à relire ce texte chez vous, la deuxième épître de Pierre au chapitre 3. Mais dans ce bientôt, il y a beaucoup de choses pour l'église de Philadelphie. Il y a signe que l'épreuve est proche et que l'épreuve va bientôt finir. Il y a un encouragement à être fort, ferme, persévérant dans notre témoignage, dans leur témoignage. C'est une invitation, au fond, à ne pas regarder en arrière la menace des chars qui courent, ni à droite, ni à gauche, les grosses vagues qui peuvent nous engloutir, mais devant. Regardez devant celui qui nous conduit, comme Moïse, ce roi David qui marche devant son peuple. Dans ce bientôt, il y a l'incertitude. Est-ce que ça sera aujourd'hui, demain, après-demain ? C'est donc une invitation à rester en alerte, à être témoin fidèle pour que le monde croie. Jésus termine toute son exhortation à l'église de Philadelphie par cette exhortation. Reste donc attaché à ce que tu as, pour que personne ne prenne ta couronne. Ne reste pas là à te reposer sur tes lauriers, mais continue ton œuvre de fidélité et de témoignage. Continue, reste attaché. Alors en conclusion, l'Église de Philadelphie et nous, point d'interrogation. Face au séisme qui s'abat sur nos vies, sur celles et ceux qui nous sont chers, sur les membres de nos familles, nos amis, face à toutes ces zones d'insécurité dans nos vies, où puiser la force ? Où puiser la force pour marcher ? Où puiser les ressources pour continuer ? Eh bien, je crois que le message que le Christ a délivré à Philadelphie au passé reste présent et reste futur. Ce message, me semble-t-il, nous aide à conjuguer notre foi au passé, au présent et au futur. Au passé et au présent, la porte ouverte nous renvoie à la grâce de Dieu, à l'œuvre parfaite du Christ à la croix, qui nous permet d'accéder à la présence de Dieu. Si nous sommes déjà chrétiens, nous avons déjà posé un pied sur le seuil de cette porte. Si nous n'avons pas encore rencontré Jésus, la porte reste toujours ouverte. Mais il viendra un temps où elle se refermera. Alors, chers amis, ne tardons pas. Plaçons notre foi en Dieu. Au présent encore, c'est vrai, nous sommes une petite communauté. Mais cette petitesse doit simplement nous appeler à l'humilité, sans nous freiner dans notre témoignage chrétien. Restons, chers amis, au présent attachés à la foi en Christ, même dans les séismes de nos vies. Et il y a une conjugaison particulière, le présent éprouvant. Alors c'est vrai, le Christ a œuvré pour nous, le Christ est avec nous, mais nous vivons dans cette marche chrétienne bien des épreuves. Et c'est vrai que parfois, on se pose cette question, pourquoi ? Pourquoi la souffrance ? Et vous savez, cette question récurrente, si Dieu existe, pourquoi cette souffrance ? Eh bien, pardonnez-moi d'être un peu provocant ce matin. Mais le livre de l'Apocalypse ne nous pose pas cette question du pourquoi, mais elle nous pose la question du pourquoi pas. Pourquoi il n'y aurait pas de souffrance lorsque l'on sait les forces du mal en marche, lorsque l'on sait la création soupirante après la délivrance, lorsque l'on sait l'homme capable des pires atrocités, lorsque l'on est victime ou que l'on souffre dans notre corps, dans notre âme, pourquoi pas la souffrance ? Pourquoi la souffrance ne pourrait pas exister dans ce monde-là ? Vous le savez, dans notre monde, notre réalité, le mal est comme de l'eau dans un tuyau percé, que l'on essaye de colmater tant bien que mal, avec des plus jamais ça. Il y a eu des plus jamais d'Holocauste. Il y a maintenant d'autres massacres, d'autres génocides. Il y a des plus jamais de maladies que l'on a réussi à guérir, et puis d'autres maladies surgissent encore. Le mal et la souffrance ne sont pas étrangers à l'espérance chrétienne. La foi chrétienne ne promet pas que nous serons préservés de toute souffrance dans notre marche, mais elle nous promet que le Christ nous donnera sa force et sa paix pour marcher. L'espérance chrétienne nous promet la fin du mal et des souffrances. L'espérance chrétienne nous assure que la mort est vaincue et qu'un jour, nous vivrons en paix sans souffrance. Voilà le pourquoi pas du livre de l'Apocalypse. Le mal et la souffrance ne sont pas étrangers à l'espérance chrétienne. L'espérance chrétienne annonce que le mal et la souffrance ne seront plus. Et pour notre futur, conjuguons maintenant notre foi au futur. Et ce bientôt. Sommes-nous dans cette heure de l'épreuve à venir ? Est-ce que le Christ va revenir demain ? Alors il y a des dates, je crois, qui circulent sur Internet, me semble-t-il, et depuis déjà des dizaines d'années. Mais il me semble que l'épreuve, l'heure de l'épreuve, a commencé il y a bien longtemps, lorsque l'on a mis à mort celui qui, persévérant, a continué de témoigner pour son Père, celui qui a annoncé Christ, qui a annoncé Dieu et son amour. À ce moment-là, l'épreuve a commencé. Ce que nous vivons actuellement, ce que nous voyons à la télé, à la radio, dans les journaux, pourrait-il être pire ? Est-ce qu'il faut encore attendre quelque chose de pire ? Sans doute, mais pas sûr. Parce que l'essentiel, au fond, n'est pas dans les spéculations autour des dates. Non, le bientôt conjugué au futur nous invite à la confiance, à la fidélité à notre foi, à au zèle dans notre témoignage. Car nous sommes dans le temps de la patience de Dieu, qui souhaite que personne ne se perde. Ce bientôt conjugué au futur s'adresse aussi à nous. Nous sommes en marche, chers amis, en marche vers cette ville qui vient, vers ce royaume qui vient. Et dans cette marche, je voudrais simplement vous laisser ce psaume 23 quelque peu revisité. Le Seigneur est mon roi et mon sauveur. Je ne manquerai de rien. Il me fait marcher vers la porte ouverte de son royaume de bonheur, la porte qui donne accès à Dieu son Père, mon plus grand bien. Il me conduit vers mes ennemis pour leur annoncer la vie. De ce témoignage, il donne du fruit par son œuvre, dans le cœur des hommes, même les plus endurcis. Quand je marche dans la vallée de l'épreuve, même la plus ardente, je ne crains aucun mal. Car toi, l'agneau immolé, tu es mon berger. Je ne craindrai aucun mal, car à l'heure de l'épreuve, tu promets ta présence, maintenant et pour toujours. Tu places devant moi la douce image de ce temple de Dieu, dont je suis, moi, pauvre créature, un pilier. Tu fais de moi un citoyen de la ville nouvelle, un membre de la famille de Dieu, un enfant du Père. Oui, la paix et la sécurité m'accompagneront même pendant les jours sombres, car tu es avec moi. Et rien ne peut me séparer de ton amour. Oui, je reviendrai à la maison du Seigneur pour la longueur des jours. Amen.